Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans Radio Foot International en cette semaine de reprise. Et nos amis sont là. Allez, je vous les présente tout de suite. Cette semaine, on fait un petit peu différemment parce que tout le monde revient de vacances, n'est-ce pas? Bonjour Carlos Bianchi.
Bonjour, plaisir de vous retrouver.
Bah oui, pour nous aussi, on sait que c'est un plaisir éphémère. Alors on est très 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 heureux que vous soyez dans l'émission aujourd'hui parce que quand vous êtes de passage à Paris, vous daignez venir... nous honorer de votre présence. Bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Alors on s'est déjà vu dans Radio Foot. Oui, voilà. Vous étiez déjà là, je sais que vous avez passé de bonnes vacances. Bonjour Franck Simon.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous avez survécu aux Jeux Olympiques?
Ça fait loin, ouais. Ouais, ça a été intense, mais voilà, maintenant on repart sur notre passion.
Vous avez gagné une médaille d'or ou d'argent?
Rien du tout. En chocolat, peut-être.
Ah oui, bah c'est peut-être mieux.
Ça se voit, non, quand même.
C'est peut-être mieux. Aujourd'hui, nous évoquerons ce mercato d'été en phase terminale. Il reste 8 jours aux clubs européens pour renouveler ou compléter leurs effectifs. Un marché des transferts étrangement apathique. Que peut-il encore se passer ces prochaines heures? Pourquoi certains joueurs, au nom parfois ronflant, on pense à Adrien Rabiot, sont sans club? Le tacle de Kylian Mbappé à ses anciens dirigeants. Le PSG n'a pas réglé les derniers salaires de sa star, dit-il, qui lui réclame donc aujourd'hui avec insistance 55 millions d'euros. Quelles conséquences de ce bras de fer pour le club des Qatariens ? Thierry Henry, le sélectionneur médaillé d'argent, abandonne ses joueurs. Il a démissionné de son poste de sélectionneur de l'équipe France Espoir. Mais pour quel dessein ? Et puis la VAR, nouvel outil pour les arbitres de Côte d'Ivoire. Est-ce une évolution ou une révolution dans ce championnat ivoirien ? Je suis sûre que Franck Simon a un avis là-dessus. Avant de lancer l'émission, un joyeux anniversaire à un fidèle auditeur, mais aussi un confrère du côté de Dakar, Mohamed Ndiong, fondateur du site Top Info et ancien élève du Cesti, qui nous avait si bien reçu récemment à Dakar. Donc bon anniversaire, Mohamed. Les amis, Radio Foot,
c'est parti!
Rumeur chaude du mercato et la dernière est improbable.
Y'a rien, allez, y'a rien, allez.
Y'a rien, comment y'a rien? Et ça?
Mais ça c'est rien.
C'est rien? Et moi je n'ai rien?
Non, y'a rien.
Et lui, il n'a rien?
Mais non, j'ai rien.
Ah bon?
Et non, rien ou pas grand chose. Alors il s'est ouvert à la veille de l'Euro et se terminera durant les Jeux paralympiques, le mercato estival européen. Et pourtant, eh bien, on a l'habitude quand même de mouvements, voire de faits absolument importants. D'habitude, le pouls est régulier. Cette année, on a l'impression que c'est un pouls extrêmement faible. C'est discret, ce mercato, alors supplanté évidemment par l'actualité d'autres compétitions sportives, mais discret aussi car on n'a pas véritablement vu de transferts spectaculaires. Alors, sauf un peut-être, ce serait celui de Kylian Mbappé, même c'est un transfert parce qu'il est parti
transfert
d'un club à l'autre.
Payant.
Mais voilà, c'est ça. Alors, non payant, pas gratuit non plus,
oui,
mais
oui,
bon.
Oui.
Et puis, alors peut-être qu'il y a un autre joli transfert, en l'occurrence, et on va y revenir, c'est celui du Citizen argentin, Julian Alvarez, qui est parti vers l'Atlético Madrid pour la petite somme de 75 millions d'euros. D'abord, est-ce que vous aussi, Patrick Juillard, vous avez la sensation que ce mercato est apathique?
Ah oui, totalement. Le mercato est atone. Le mercato... si on prend la Première Ligue, qui est en général le championnat européen le plus dépensier, vous prenez les clubs les plus riches, Liverpool, 0 recrue payante, Manchester City, 1 recrue, c'est Savinho, le Brésilien, pour 25 millions d'euros, ce qui est beaucoup, mais qui pour Manchester City est très peu. Et Arsenal, 1 recrue, Calafiori. Donc le marché, et pour que le marché soit nourri, il faut qu'il y ait beaucoup de mouvement, parce que l'argent
parce
appelle
que finalement,
l'argent.
Ça circule.
Et si finalement ça ne circule pas et que ça n'embraye pas, le marché, comme il est aujourd'hui, atone. Et pour la Ligue 1, sur les 18 clubs, 4 n'ont pas de recrues, dont le Stade de Reims, cher à Carlos Bianchi. Voilà, donc le marché est atone, mais il peut se réveiller, il reste 10 jours.
Voilà. 8 jours même.
Oui,
on a compté 8 journées.
Jours.
Carlos, ça vous surprend qu'en ce moment, il y ait très peu de mouvements? Est-ce que selon vous, c'est l'actualité? On pense à autre chose?
C'est l'actualité mondiale, je pense. C'est tout à fait
c'est
normal.
C'est un peu partout.
Lui, Patrick, il vient de dire des Manchester City. Mais Manchester City et Nevon, il a dépensé plus de 2 milliards d'euros. Mmh. Vous savez qu'est-ce que c'est 2 milliards d'euros un joueur de football? Vous faites 40 équipes.
Ça veut dire qu'on est revenu dans un, peut-être à la normalité?
Logique, je pense que ceux qui mettaient le pognon et ou mettaient l'argent, on va être poli.
Oh, ça va, pognon, ça passe. Ça passe.
Et je dis, peut-être qu'ils se rendent compte qu'on ne peut pas dépenser tout le temps.
Mm-hmm.
Le problème, il est là.
Oui, oui.
À un moment donné, si on a dépensé pendant 5 ans, on a fait une équipe, on ne peut pas changer l'équipe 5 ans plus tard.
Mm-hmm. Oui, bah surtout quand on a des effectifs pléthoriques. Et là, on pense à Manchester City. Encore un avis, le vôtre, Franck Simon, peut-être aussi. L'année dernière, on se souvient de cette folie douce qui était la structuration différente et avec des étrangers du championnat saoudien.
Oui, qui reprend d'ailleurs aujourd'hui.
Oui.
C'est marrant que vous en parliez.
Le championnat qui reprend.
Championnat saoudien, oui, mm-hmm.
Mais
d'élite.
Ils n'ont pas fait de grosses courses cette année sur le championnat.
Moussa Diaby pour 60
millions. Il y a quand même
Moussa Diaby. Voilà, mm-hmm. Pas grand-chose.
Mais en fait dans tout ce que j'entends ici, que ce soit Pat ou Carlos, on est étonné du fait que ce soit Atone par rapport, c'est là où je te rejoins Carlos, par rapport aux saisons précédentes. Parce qu'il y a quand même des transactions. Certes,
oui.
Elles sont... c'est pas non plus... À la marge.
C'est moins ronflant. En fait.
C'est moins ronflant. Il y a quand même, tu regardes, il y a quand même des transferts qui sont opérés tous les jours. Certainement que nous aussi, on a cette vision aussi franco-française où il ne se passe quand même pas grand-chose.
Non, mais même sur les autres...
Mais il y a quand même des mouvements, sauf que ce n'est pas spectaculaire, mm-hmm. Sauf que ce n'est pas les mêmes sommes. Il y a quand même des clubs et pas ceux qu'on attend, quand même dépenser déjà et quelques...
C'est vrai que par exemple, le Bayern Munich, qui habituellement est un club assez raisonnable... En matière de transfert, là, ils ont fait Olise pour plus de 50 millions et Paulinha, qui ça parle pas à grand monde, mais c'est un
millions.
Super milieu de terrain régulateur
ouais.
Portugais
ouais, qu'on a vu à l'Euro
pour plus de 50 millions de Fulham, donc c'est pas mal.
C'est vrai aussi.
Tu vois, donc ça permet quand
oui,
même de relativiser.
Mais il y a pas de transfert de stars, de
oui, voilà.
De feuilleton.
Est-ce qu'il y a encore des stars finalement?
Oui, il y en a, mais elles vont pas bouger. Osimhen ne bougera pas, par exemple.
Il y a des stars qui ils ont commencé à vieillir. C'est là la question.
Aussi.
Alors là, tu ne l'achètes pas.
Mm-hmm.
La question est
Carlos,
là.
Parlez-nous de Julian Alvarez, parce que champion
Moi,
du monde avec
étonné.
L'Argentine.
Je dis la vérité.
Vous
je
êtes
suis
étonné de son choix d'aller à l'Atlético ou de quitter Manchester City de Pep Guardiola?
Je pense que. Parce que lui, on dit qu'il n'était pas tellement titulaire. Il était titulaire, il ne jouait pas tout le temps. Il a un des meilleurs avant-centres devant lui, mais lui, il jouait 9 et demi,
mm-hmm.
Il pouvait jouer deuxième attaquant, il marquait des buts, parce
bien
qu'il
sûr.
A marqué plus que Foden.
Bien sûr.
Foden, il vient d'être élu le meilleur joueur britannique, mais Alvarez, il a marqué plus de buts que Foden.
Mm-hmm.
Et alors, ça veut dire qu'il a réussi. Mais je pense qu'il doit avoir un court-circuit avec l'entraîneur, oui, pour moi. Et oui, parce qu'à Guardiola, sûrement que quand Alvarez il a dit « je veux partir », ça ne l'a pas fait plaisir hein, à Guardiola. Parce que lui, il veut que tous les joueurs ils aient la peine parce qu'ils sont obligés à partir. Mais là, c'est Alvarez qui l'a dit « je pars ». Ça me fait la peine, mais il va à un club dans lequel j'étais là-bas. Le président, il est très bien.
Et il va très bien comprendre l'entraîneur,
l'entraîneur,
un autre Argentin.
L'entraîneur, c'est un Argentin.
Ouais.
C'est une équipe qui, après Barcelone et Real Madrid, et tous les ans, il est en quart de finale, en demi-finale de la Champions aussi. Hein.
Mmh. Et c'est celle qui a bien recruté, à la limite.
Va.
Mmh. Hein, et qui a
oui, ils ont
année.
Pris aussi Conor Gallagher pour plus de
Gallagher.
40 millions.
Mmh.
Donc tout ça, ça fait...
C'est vrai.
Ils se sont bien remplumés au sein d'un marché un peu atone. Mais effectivement, Franck a raison, on a une vision un peu franco-française. Mais si on excentre un peu le regard, Tierno Barry, par exemple, ça ne vous dit pas grand-chose. Un des meilleurs buteurs du championnat suisse, un franco-guinéen, parti pour Villarreal, du FC Bâle à Villarreal, pour 14 millions d'euros, avec des bonus, donc c'est pas rien. Donc à bas bruit, certains transferts vont peut-être être les stars de demain. Peut-être que dans un ou deux ans, ce joueur-là, il va être dans un top club en Bundesliga ou en Première Ligue.
Et tu peux avoir des trucs de fin de... Effectivement,
aussi,
ce qu'on dit, de fin
sur
de marché.
Sur les 8 derniers jours.
Lookman, oui. Lookman voilà. Qui est convoité par la Première Ligue.
Et même par le Paris Saint-Germain,
disait-on.
Ça,
hein.
ça peut bouger au dernier moment.
Ça dépend le club, ce qu'il a besoin. Et quand on pense qu'un des meilleurs avant-centres qu'il y a en Europe, l'avant-centre de Naples,
Osimhen.
Il veut le club, il veut qu'il s'en aille. Lui, il ne veut pas tellement s'en aller. Conte, je ne sais pas s'il a du poids avec De Laurentiis, son président, et il ne le fait pas jouer. Mais s'il est au club, pourquoi tu ne le fais pas jouer?
Après, on perd le premier match 3-0.
Dimanche, ils sont perdus 3-0 contre une petite équipe de Vérone. Ça m'étonne.
Alors, il y a une autre question qui peut se poser aussi, c'est pourquoi il y a autant de joueurs libres qui attendent actuellement? Est-ce qu'ils attendent, Patrick, les dernières heures pour faire leur choix, finalement?
Vous pensez à Rabiot, notamment.
Notamment, mais un joueur libre, en même temps, peut dépasser l'heure du mercato.
Oui, un joueur libre.
Il n'est pas tenu aux 30 août.
Si le marché bouge peu, les postes qui se libèrent sont peu nombreux.
Et le choix est réduit.
Je pense que pour les joueurs, disons, des top players, les joueurs de haut niveau type Rabiot, ils sont exigeants. Ils ne vont pas aller dans le premier club qui les contacte. Hein. Rabiot ne va pas aller à Fulham. Hein. Il va essayer de viser un meilleur club. Monnayer, comme vous dites, à la fin, ça va jouer au dernier moment.
29.
Déjà, ouais.
Il peut jouer 4 ou 5 ans parce que c'est quelqu'un qui se donne. Hein.
Je crois qu'il a joué 5 ans à la Juve.
Oui.
Il y a un
championnat, on en parlait tout de suite, hein, la Roshn Saudi League, hein, le championnat saoudien. À un moment donné, ils ont les capitaux, c'est vraiment pas un problème. Hein. Pour eux, s'ils voient des joueurs qui sont libres, ils vont essayer de les prendre.
Mais vous pensez que Rabiot va, à son âge,
tout est possible.
Tout est possible pour l'argent, mais il y a aussi des choix de carrière.
On disait ça d'autres joueurs qui ont rejoint et qui n'étaient pas des trentenaires et qui sont partis là-bas. Vous l'oubliez, Annie, on dirait. Hein. Il y en a un paquet qui sont partis et qui continuent d'y aller. Mm-hmm. Donc, c'est pas sur le sportif Moussa Diaby
dont on vient de parler.
Ouais, Moussa qui a rejoint un entraîneur français,
d'ailleurs. Ceux qui vont sur la carrière, il est comment ça?
Mais oui.
Il n'est pas comme ça, la carrière. Un Seko Fofana, sa carrière, elle était au top quand il est parti là-bas.
Ouais. Et puis ça ne l'a pas empêché d'aller chercher une Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. Tout le monde se posait la question.
Ça dépend de l'ambition du joueur.
Et puis ça peut être aussi un choix familial. C'est-à-dire qu'il y a le choix du joueur, il y a le choix de son entourage, de sa femme, de ses enfants, de sa famille. Bon, ça dépend aussi de la religion, parfois. Donc, tout ça est à prendre en compte.
Kingsley Coman, par exemple, qui aimerait changer de club.
Alors, lui, pour le coup, autant Rabiot ou Seko Fofana, leur carrière, elle était
à un point haut.
Lui, elle est plutôt à un point descendant. Hein. Coman, c'est beaucoup
de blessures. Il a 27 ans, je crois.
Mais beaucoup de blessures. Il a perdu quand même son statut en équipe de France. Il est un peu déclassé en équipe de France. Avec le Bayern, c'est sort d'une saison compliquée.
Il y a des championnats pour se relancer.
Il y a des championnats pour se relancer. Je vois pas non plus, vous parlez de championnats pour se relancer, je vois pas Coman aller en Turquie, par exemple, où certains joueurs sont allés pour se relancer, avec plus ou moins de succès. Mais je pense que tout ça va se régler dans les derniers jours, hein, sûrement.
Est-ce que vous imaginez
parce que le marché peut se réveiller brutalement.
Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour cette fin? Un truc qui serait fou
Mohamed Salah en Arabie Saoudite, pas. Ça, on peut l'imaginer.
On l'attend depuis un an, les Saoudiens surtout.
Il paraît qu'il a dit qu'il va arriver à la fin de son contrat.
Voilà, mais imaginez qu'une offre énorme arrive, une offre d'un autre monde arrive. Ils veulent à tout prix avoir Mohamed Salah.
Ça dépend le club s'il a besoin d'argent, ça dépend de l'ambition du joueur. Vinicius, ils l'ont offert un contrat de 1 milliard d'euros.
Ouais.
Il n'a pas voulu y aller.
Non, mais Vinicius, il est au Real Madrid et il est beaucoup plus jeune.
Ouais.
Mais effectivement.
Tout disparaît, si tu veux.
Ouais. Moi, je pense que ce qui pourrait faire bouger les choses, c'est qu'une très grosse transaction arrive dans les 2-3 jours qui viennent, qu'un joueur à 120 millions d'euros
par exemple, on parlait de Lookman ou Osimhen. Voilà.
Et là, ensuite, ça part capillarité,
ça ricochet sur les autres.
Mais sinon, je pense que le marché, il est parti pour rester à tone jusqu'au bout.
Championnat français, je ne crois pas que ça décolle.
Non, en
France, clairement, on en a parlé hier. Ben oui, il n'y a pas d'argent et les droits télé.
Au moins, les entraîneurs travaillent avec des effectifs stable, hein, c'est au moins un avantage.
Ouais. Bon, en tout cas, il y en a un qui a été transféré en début de saison, ou qui s'est transféré d'ailleurs tout seul, et il regarde un peu en arrière, on va en parler.
Ton anglais est très bon, ton espagnol aussi.
il est très bon, mais...
Lo entiendo.
Uno, dos, tres, a la Madrid.
Hasta luego.
Bellingham desencadenado los tres del Real Madrid. Kylian remata. Gol de Kylian Mbappé.
Alors, vous l'avez reconnu ?
Kiki ?
Kiki d'Espagne.
En tout cas, les bons comptes font les bons amis. Je ne sais pas quel est le proverbe africain qui pourrait se cacher derrière cette évidence.
Gono,
oui, oui, on lui demandera demain. Mais quand on n'est plus amis, que se passe-t-il ? Eh bien, on réclame et on le fait savoir. En l'occurrence, Kylian Mbappé ou ses ayants droit viennent de ressonner les cloches au PSG. À travers des chemins pour l'instant loin des tribunaux, il réclame une dette de salaire qui s'élèverait à 55 millions d'euros. Peut-être une bagatelle, tant pour l'un que pour l'autre. Mais on imagine déjà Picsou, le Picsou de notre enfance avec ses yeux là, qui seraient pleins d'étoiles et pleins de signes de dollars.
De S barrés.
Oui, voilà, exactement. En tout cas, quelle que soit la somme, un joueur, quand il n'est pas payé, Carlos, c'est la faute du club.
Oui.
Il est un salarié, il a travaillé.
Mais ce qui m'étonne à moi, c'est qu'ils ont été ensemble pendant 5 ans.
7 ans.
7 ans ?
Il est resté 7 ans.
Alors, si tu ne connais pas les gens qui te payent, c'est comment il est arrivé à avoir une dette si grande?
Mais j'imagine. Oh, bah là, c'est 2-3 mois de salaire, lui, 55 millions d'euros.
Et le grand.
C'est plus compliqué qu'une dette, en vérité. Même si c'en est une, mais bon, c'est la fin de. C'est une saison, une dernière saison.
Il y a
quelques
salaires, il faut voir si.
C'est de la prime, il y a de la prime.
Il y a trois composantes, en fait.
En fait.
Il y a la présence, je ne sais pas comment le contrat.
En fait, les sommes réclamées de 55 millions d'euros, c'est le dernier tiers de la prime à la signature qui ne lui a pas encore été versée, qui aurait dû l'être en février. Donc ça, c'est 36 millions. Et les 19 qui restent, c'est les trois derniers mois de salaire de Mbappé plus la prime d'éthique pour cette période. Mm-hmm. Bon, la prime d'éthique, ça doit être 1 million. Les trois derniers mois, ça doit être 18. Et en fait, pour moi, c'est juste de la vexation, c'est une guerre des nerfs. Le PSG a budgété ces sommes, le PSG a l'argent pour payer Mbappé, et ils font traîner juste parce qu'il y a une sorte de petit...
D'orgueil.
D'orgueil mal placé, surtout de leur côté.
Mmh.
Et ça va se régler. Ils ne vont pas risquer une suspension par l'UEFA pour ces sommes qu'ils ont en stock.
Parce
puisque
que
c'est des sommes qui sont prévues
ça.
Et budgétées. Ça, ce n'est pas l'argent qui est tombé du
mais
ciel.
Mais pour l'image, ce n'est pas bon.
Non, ce n'est pas bon.
Ce
n'est
pas bon parce que si je suis joueur...
Mais Carlos, ce n'est pas bon pour qui ? Pour le joueur ou pour le club ?
Pour Paris.
Pour Paris.
Le joueur, il réclame ce qui...
Il réclame son dû, tout simplement.
Après, les relations entre Nasser Al-Khelaifi et Florentino Pérez ne sont pas très bonnes.
Mm-hmm.
Il n'aime pas trop le Real Madrid. Mm-hmm. Donc, je pense aussi que...
C'est un euphémisme, c'est pire
que
ça.
Il veut un peu mettre des bâtons dans les roues d'un des nouveaux salariés du Real. Mais ça va se régler dans les trois mois.
Franck...
C'est de la haine.
Alors, peut-être pas à ce point-là, mais Franck, en tout cas, on l'a bien entendu, il y a aussi une espèce de règlement de compte, effectivement, vous parlez d'honneur, parce que Kylian Mbappé, quand il était sous le maillot de l'équipe de France et qu'il a un peu fait allusion à ses derniers mois au Paris Saint-Germain, il a bien montré que ce n'était pas le paradis.
Effectivement, il a utilisé des mots assez forts. Je crois que j'étais avec vous, d'ailleurs, quand on avait passé les extraits. J'ai trouvé que c'est... Sur le moment, je trouvais que c'était déplacé qu'il le fasse à ce moment-là, avant le championnat d'Europe, qu'il évoque ce truc-là. Qu'est-ce que ça a à voir là ? Tu es en équipe de France, tu prépares une autre compétition et tu viens parler effectivement de ce mauvais traitement ou de cette absence de traitement, de règlement de ce qu'on te doit. Mais à l'arrivée, on se doute bien, connaissant son entourage, qu'ils ne vont rien lâcher. Lui il est actuellement sur d'autres choses,
exactement.
Sur d'autres dossiers. Mmh. Mais son entourage, ils sont dans, comme vous disiez, Annie, ils sont dans leur bon droit.
C'est tout
voilà.
À fait normal.
Ben oui.
C'est les conséquences pour le club, parce qu'en ce moment, on parlait de Mercato. Alors, ils n'ont pas été très, très actifs, si.
Presque 60 millions, Doué 50.
Voilà, c'est
ils ont dépensé plus de 140 millions quand même.
Sur les dépenses, ils ont dépensé, mais ils n'ont pas du tout acheté de stars comme ils faisaient habituellement.
Ils ont
donc
acheté
ça change
plusieurs
un peu. Plutôt des prospects, quoi.
Jeunes et
voilà,
prometteurs.
C'est un changement de philosophie, ouais, et tant mieux d'ailleurs.
Mais par contre, là, Gonzalo Ramos, qui était sans doute leur très bon joueur et qui, ouais, enfin, la place était libre, on va dire, alors que l'année dernière, il était un peu obligé de se restreindre. Là, il est blessé.
C'est mal tombé pour lui. Ouais.
Il vient d'être opéré, il y en a au moins pour 3 mois. Ouais. Donc, on se disait, ils vont sûrement vouloir le remplacer. Est-ce que, ou en tout cas...
étoffer l'effectif,
voilà,
au poste.
Est-ce que cette affaire... avant la fin du mercato, peut les gêner? Pas si vite? Ça sera sur l'autre
pour
mercato.
Pour moi, c'est des sommes budgétées. C'est des sommes qui sont prévues, qu'ils ont en caisse. Donc, pour moi, ça n'interférera pas avec le mercato.
La question, c'est que si dans 3 mois ou 4 mois, Ramos, il revient et tu achètes quelqu'un pour être titulaire...
Il va se retrouver dans la même situation que la saison avant.
C'est un problème.
C'est,
là,
dur,
hein.
C'est vrai que c'est compliqué pour lui aussi. Hein.
Écoute, pour jouer, le championnat français et pour jouer les éliminatoires de la Champions, il a une équipe quand même.
Oui.
Il n'y a pas besoin d'acheter un avant-centre
phénoménal. Et puis surtout, c'est pas Luis Enrique, c'est un entraîneur qui n'est pas réputé pour être très attaché au poste d'avant-centre, souvent joué sans vrai avant-centre, avec des
Barcelone,
faux neufs,
on s'en souvient.
Et qui pourrait le faire avec
Asensio,
par exemple.
Il a copié à Guardiola.
Il pourrait le faire avec Colomwany. Alors, il faudrait que Colomwany, au niveau stats, enchaîne quelques matchs concluants. Ouais. Pour l'instant, c'est un peu balbutiant. Mais si ça arrive, il peut très bien faire 3-4 mois et tenir le coup. Est-ce qu'il y a une opportunité sur le marché pour trouver un joueur du calibre de Ramos dans les 8 jours qui viennent?
On avait entendu parler de Lookman, effectivement.
Mais Lookman, c'est pas un avant-centre, Annie, c'est un ailier.
Oui.
Donc c'est
ça peut peut-être résoudre le problème que quand Ramos reviendra, il se déplacerait un peu.
Mais je vois pas. Il y a déjà Barcola. Dembélé, pour moi, il est insuffisant, mais visiblement, ils veulent faire avec. Donc, je vois pas Lookman au milieu. En fait, j'adore Lookman, mais pour moi, ça serait en trop. C'est pas ce poste.
Carlos, on est en début de saison. J'aimerais vous poser une question. Ce Paris Saint-Germain, vous le voyez déjà champion de France?
Oui. Oui. Moi, oui.
Oui.
Mais vous n'êtes pas objectif. Pas vous y avez joué, Carlos.
Non, c'est pas marrant pour moi. Je suis chanceux.
Sincèrement, cette saison,
pour moi, c'est pas marrant parce qu'au départ, tu sais qui va être champion.
Ouais, ah oui. Pour vous, il y a zéro suspense.
Non.
Je trouve pas. Moi, je trouve que cette saison, au contraire...
Sauf un miracle qu'il y ait une équipe comme l'année dernière, quand vous réfléchissez bien, vous croyez, au début de l'année dernière, que Brest, il allait finir deuxième?
Non.
Non, mais
c'est la vérité.
Mais ils ont fini deuxième. Ils n'ont
ils n'ont jamais été en situation...
C'est pas comme Lens, il y a 2 ans.
Oui.
C'est pas comme Lens,
même Lille, il y a 3 qui a gagné.
Mais là,
Marseille avec Greenwood, par exemple.
Ils sont bien démarrés. Il faut voir.
Marseille,
c'est Marseille.
Il y a eu un match, je suis d'accord, mais
Marseille,
et sur le potentiel de l'équipe, non?
Ah, ils ont perdu le buteur.
Aubameyang.
Ils l'ont perdu.
Marseille, pour moi, le problème, c'est que...
Quand même, ils marquaient les pions.
Bon.
Ils ont recruté en ligne avec les demandes de l'entraîneur De Zerbi, qui a des demandes très précises. C'est au moins un mérite, contrairement à Nice, qui a... Bon, voilà. Mais en revanche, je pense que j'ai peur que l'effectif soit un peu limité pour la durée, quoi.
J'avais juste cette question sur le Paris Saint-Germain à Carlos, parce qu'on ne l'avait pas encore entendu là-dessus. Et qu'il va bientôt nous quitter pour repartir sous d'autres cieux. Donc, il nous abandonne.
Tout m'effondre le cœur.
On profite quand il est là.
Je vais appeler à France, Carlos.
Bloquer les avions.
Qui disait ça?
C'était
Rému.
Panisse, tu me fends le cœur. C'est Marseille. Hein,
c'est
César.
Extraordinaire. Panisse, César, Marieux.
Oui.
Allez, on continue. On va parler d'un sélectionneur qui, lui aussi, nous a abandonnés.
Malheureusement, on n'a pas pu rapporter l'or, mais on est quand même médaillé. L'histoire, elle est vraiment extraordinaire.
Danse Thierry Henry, n'est-ce pas, hein, médaille d'argent autour du cou, comme tous ces joueurs d'ailleurs de France Espoir, on l'a vu danser au milieu de son groupe, de ceux qu'il a surnommés les fous, ces jeunes qui ont donc participé avec lui à l'aventure des JO de Paris. Ça fait 40 ans que la France ne décrochait pas de médaille olympique au foot. Alors bon, certes, c'est une médaille d'argent, mais c'est quand même une médaille.
Il y a presque deux vainqueurs sur cette finale. Elle était belle.
Qu'est-ce qui était, pardon ?
La finale était tellement belle qu'il y a presque deux vainqueurs.
Oui. Il y a eu un très bon suspense. Voilà. Il y a eu des
beaucoup de buts.
Exactement, beaucoup de buts.
Ça nous a changé de certaines finales olympiques.
Vous avez compris l'allusion.
Oui, exactement. En tout cas, je me souviens de certaines. Il y avait une Cameroun-Brésil, n'est-ce pas, en l'an 2000, hein ?
Il y a eu le Nigeria aussi, en 96,
contre l'Argentine.
Mm-hmm. Oui, non, mais c'est vrai que
les joueurs jouaient leur jeu.
Il y a eu encore Argentine-Nigeria, même à Pékin.
Il y en a très souvent, même en Coupe du Monde.
Qui était ennuyeuse au possible.
Chiante, terrible, horrible.
Bon, en tout cas...
Celle-ci, on s'est régalé.
Écoutons ce sélectionneur de l'équipe de France des JO. Il a eu une année très compliquée, on le sait, beaucoup de refus dans son équipe, alors que l'Espagne, elle jouait avec les meilleurs parce que la loi l'y oblige. Là, les clubs français, ils ont vraiment fait la fine bouche. Mais vous allez entendre l'expérience, là, apparemment comblée.
Une grande fierté, encore une fois. À l'arrivée, tu gagnes une médaille quand même. C'est ça la force des JO. Et puis, il y a eu une histoire, vraiment une aventure humaine extraordinaire. Je leur ai dit, ils ont gagné mon respect à vie. Parce que cette équipe a jamais lâché, que ce soit à l'entraînement, peu importe ce qu'on nous a envoyé. On a toujours essayé de faire ce qu'il y avait à faire et se battre. Et donc, ce groupe-là, quoi qu'il arrive, on sait qu'on ne va jamais se retrouver encore ensemble. Tous là, comme ça, c'est juste impossible. On est au courant, mais ce groupe-là, c'est à vie pour moi.
Alors, il a l'expérience des belles aventures, évidemment. Thierry Henry, champion du monde 1998, sa belle épopée à Arsenal avec les Invincibles. Ces JO, est-ce que pour vous, c'est réussi pour Thierry Henry, Carlos Bianchi ?
Au départ, on ne croyait pas. Parce que franchement, la France, il ne jouait pas bien.
Il a été nommé le 21 août, il y a un an.
2023.
Donc,
parce que pour moi, les premiers matchs de la sélection de France, ce n'était pas tellement bon. Mais avec le temps, ils sont arrivés à bien jouer. Et pour moi, c'est une réussite. Et la décision qu'il a prise, je pense qu'elle est correcte. Parce que,
vous la comprenez ?
Parce que travailler dans une sélection, c'est travailler tous les 40 jours. Non, le vrai entraîneur, c'est celui qui travaille tous les jours. Regardez-vous Ancelotti. Il n'a jamais pris la sélection de l'Italie.
Du Brésil, hein, n'est-ce pas ? Oui. On l'attendait, soi-disant.
Même le Brésil, oui. On l'attendait.
Non, mais la question, elle est là. C'est, une sélection, c'est bien, c'est marrant, sauf que vous avez la chance de jouer avec les meilleurs joueurs du pays.
Oui.
Et la qualité du matériel, c'est le meilleur.
Alors, justement, peut-être, Franck, c'était pas le cas, justement, Thierry Henry. Parce que comme il n'était pas obligé, ses clubs, de libérer les joueurs, il a essuyé un nombre de refus. Il avait déclaré...
Et c'est pas le premier à son poste.
Bien sûr. Et
son
il avait déclaré...
C'est pire. Hein.
Je crois que c'est à l'école que j'ai essuyé autant de refus, à l'école primaire. Mais sinon, on l'a pas aidé, en plus. Et justement, c'est peut-être là toute la magie du travail, de sa réussite.
Oui, sur un an, alors que son prédécesseur Sylvain Ripoll avait travaillé, je crois, sur un cycle de 3 ou 4 années. Mm-hmm. Et ça n'avait pas du tout fonctionné.
Puis lui, au début, par exemple, quand il convoquait, évidemment, quand c'était des fenêtres FIFA sur les France Espoir, il les avait les meilleurs. Mais quand il a fallu faire la liste...
Il est dans son rôle aussi de convoquer, même lorsqu'il sait qu'ils vont être... on ne va pas lui accorder, il est dans son rôle de les prendre, de les convoquer, en tout cas. Voilà. Il le fait.
Non, bien entendu. Mais il a amené un groupe improbable à son meilleur.
C'était franchement une galère. Moi, je suis un peu comme Carlos. Hein, j'y croyais pas vraiment. Je croyais pas à la magie Thierry Henry. Puis en plus, quand tu te souviens de 98, c'est un joueur dans l'effectif, mais c'est un joueur qui a pris son importance pour la conquête de la Coupe du Monde. Mais c'était pas un taulier, c'est pas un leader.
Non.
Il est trop jeune. Donc du coup, mais il a déjà vécu des choses importantes. Et entraîneur, ça n'a pas été... Entraîneur de club, ça n'a pas été une réussite.
Non. Bah non.
Après, on l'a retrouvé...
Enfin, ça a été compliqué, on va dire.
ça n'a pas été une réussite. Je crois qu'à Monaco, ils attendent encore une victoire.
Ouais, et puis quatre mois. Même à Montréal, en plein Covid,
Il
n'y
a que quand il était avec les Belges que c'était intéressant. Exactement. Il a étoffé sa palette.
Et c'était avec des sélectionneurs, finalement, et pas avec des entraîneurs. C'est ça qui est intéressant. Mais on va écouter Alexandre Lacazette, parce que là, c'était son capitaine. Alors évidemment, ce n'était pas un espoir. Lui, c'était un confirmé. Mais Alexandre Lacazette, il définit un peu la méthode Thierry Henry. Et on se souvient justement à Monaco, quand on se disait, bon, le vestiaire l'a un peu lâché à un moment et tout. Et bien là, en tout cas, les joueurs, ils ont aimé.
Je comprends le coach qui nous appelle les fous, parce que chaque, je dirais pas réunion, mais il suffit qu'il y ait 3-4 joueurs ensemble, pardon, ça part en rigolade, il n'y a pas le droit à l'erreur, parce qu'on se fait vite reprendre et pendant longtemps, il n'y a pas de poison dans cette équipe, c'est toujours la rigolade, mais comme le coach aussi le dit, quand on est sur le terrain, on travaille, pas pour autant qu'il n'y a pas de coups ou quoi que ce soit, donc c'est une vraie bande de fous.
Voilà, sa bande de fous, il a quand même su les guider jusqu'en finale en France, quoi. Bon, même la finale se termine un peu mal, puisque ce sera pas la médaille d'or, mais...
Non, ce que j'ai apprécié tout au long de cette aventure olympique, c'est que Thierry Henry a essayé de faire jouer l'équipe à son idée, sans essayer de calquer le jeu des habituelles équipes de France qu'on a vu. On a vu quelque chose de beaucoup plus débridé, de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus offensif.
C'était assez identifié ce qu'il a voulu faire.
Et j'ai bien aimé qu'il s'affranchisse un peu du fait que la France a souvent gagné en étant un petit peu restrictive et prudente, même si l'Euro 2000 est un contre-exemple, et il y était à l'Euro 2000, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais ça, j'ai bien aimé. Après, je pense qu'il se considère un peu surdimensionné pour le poste, parce qu'il faut pas oublier, même si il a montré des qualités de gestion du groupe, et voilà, bravo à lui. Il a un gros ego, Thierry Henry, il se prend pas pour n'importe quoi, et c'est aussi peut-être à l'origine de sa réussite,
c'est pas n'importe qui,
mais
non.
Parfois c'est un peu
ça fait plus de 20 ans que ça dure, donc
je pense qu'il se voit ailleurs. Alors il attend peut-être une autre sélection, mais une sélection A, parce que le problème aussi des espoirs, un autre problème, c'est que on a les joueurs que pendant un cycle d'un an, et il faut ensuite
parce qu'il doit avoir des nouveaux joueurs,
éternel recommencement,
et donc on ne peut pas travailler sur la durée.
Il doit prendre une équipe,
bien
un
sûr
club. Un club, c'est ça,
les vrais entraîneurs, on apprend tous les jours, les problèmes que tu as. Parce qu'il n'y a pas un seul jour dans l'année que tu n'as pas de problèmes.
Oui, il
t'as
faut
tous
toujours
les jours
gérer
des problèmes.
En tant qu'entraîneur,
comme
des
entraîneur.
Imprévus.
C'est extraordinaire. Les états d'âme des joueurs, les états d'âme de ton groupe d'entraîneurs. C'est extraordinaire travailler tous les jours avec un groupe. Travailler 40 jours. Et le mec qui vient, il est content parce qu'il va, il va tout accepter.
Là, c'était particulier, c'était les amener, les diriger en France, les essayer d'aller chercher une médaille, et la plus belle possible.
Jouer chez toi. Jouer chez toi, c'est plus important que jouer à l'extérieur. Hein.
Et c'était l'équipe de France,
mais
c'est pour
ça,
tout ce
alors,
que ça représente.
Franck, c'est vrai, il l'a plutôt bien fait. Ouais. On pouvait avoir des doutes, mais il l'a bien fait. Mais peut-être que le fait de retrouver quelque chose de plus routinier, avec des dates FIFA,
de plus intense,
des petits matchs, je pense que ça l'amuse plus.
Non,
je pense
finalement
qu'il se voit plus dans... Moi, je pense qu'il attend un club anglais ou de MLS, quoi,
avec,
tout simplement.
Avec ce groupe, quand même, il était arrivé finalement au maximum, justement. Ouais. Puisque vous dites qu'après, évidemment, à cause de l'âge, hein, je crois que c'est
et
des moins de 20 ans.
Je pense qu'on verra certains des membres du groupe dans la prochaine liste de Deschamps.
Bah, d'ailleurs, il y en a un qui est passé au Paris Saint-Germain, Doué, lui, il a...
C'était très important aussi d'être en France.
Oui, bien sûr.
C'est pas pareil.
Où vous le verriez atterrir, justement? Parce que là, alors, on parlait d'un mercato un peu frais pour les joueurs, mais alors pour les entraîneurs, ça a été frais aussi.
Je vois s'il y a des changements d'entraîneurs précoces dans la saison, en première ligue, voire en championship, parce que même la D2 anglaise, ça paye très bien. Et c'est un gros championnat à 22 clubs avec des gros matchs et
il connaît bien
beaucoup de public, et il connaît tous ses terrains comme sa poche.
Excusez-moi, le Belge qui était à Reims.
Will Steele, il est à Lens.
Il est à Lens.
Il est resté en France. Ouais.
Il est parti à récupérer l'ancien entraîneur du Havre, Elsner.
Il n'est pas parti.
Oui, je dirigeais son père.
Il est...
Marco, bien sûr. Marco. Bien sûr.
En tout cas, il n'est pas parti en Angleterre.
Il y a 4 ans. Ouais.
Bon. En tout cas,
il manquera
pour
pas,
conclure,
il
ce qu'on peut
pas
dire.
De propositions,
mais
il
Franck,
va faire comme les autres.
Alors, pas redorer, mais réargenter son blason, Thierry Henry, à l'issue quand même de cette séquence, non?
Je trouve que oui, très largement. Mais pour les raisons que Pat a expliquées, quoi, en fait. Hein, parce qu'il y a eu une identité.
Voilà.
Et pas seulement de l'identité, mais en plus, ils l'ont exprimé. C'était pas simplement de le faire, mais ils nous l'ont montré.
Et puis l'adhésion d'un groupe, justement.
Ouais, donc ça, de ce point de vue-là, tout s'est bien passé, bon, hormis la fin de la finale. Oui. Mais oui, il peut repartir sur un autre cycle et pourquoi pas aller chercher un club de qualité. Il manquera, moi, je pense qu'il ne va pas manquer de propositions, mais il ne va pas faire du n'importe quoi.
On a envie de le voir. Est-ce qu'on peut l'imaginer un jour quand même sélectionneur de l'équipe première?
Un
successeur un jour de
Didier
Deschamps.
Il y a du monde sur la
question,
sur la
c'était que tout le monde voulait qu'il soit Zidane.
Oui, mais
j'attendais à Zidane.
Tout le monde, sauf un. Je pense qu'il y en a un qui ne veut pas que ce soit Zidane, c'est Deschamps. Et je pense que Deschamps, ça ne le gênerait pas trop que ce soit Henry à la place de Zidane. Vu les relations entre les
Zidane
deux hommes.
Zidane et Deschamps, ils ne sont pas bien?
Pas vraiment.
Ah non?
Non.
Ouais, bon.
Ça, donc c'est... ça, on verra. Mais
on verra.
Il a peut-être ça dans un coin de sa tête, mais il est très jeune, Henry. Donc
oui, il a 47 ans.
Voilà,
donc
il peut attendre. Enfin, il est très jeune.
Bon, en tout cas, il a une très belle médaille autour du cou avec un petit bout de Tour Eiffel à l'intérieur, n'est-ce pas?
Et
c'est
hommes.
Une médaille d'argent. Oui, on l'envie. Allez, on continue, puis on va partir du côté de la Côte d'Ivoire, si vous voulez bien, mon cher Franck. Vous allez nous raconter plein de choses. Bon.
Bientôt l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage, la VAR, dans la Ligue 1 ivoirienne. La mise en place de la VAR à partir de la saison prochaine vise à améliorer l'équité et la précision des décisions arbitrales, souvent sujettes à contrôle.
La VAR va faire taire les polémiques autour du football ivoirien.
Le championnat de Ligue 1 de Côte d'Ivoire en pleine modernisation après les polémiques. Il y en a eu beaucoup la saison dernière, Franck, des polémiques autour de l'arbitrage.
Il y en a eu un paquet, et notamment en fin de saison, et pas nécessairement dans l'élite, mais notamment en deuxième division pour la montée.
Ouais, voilà.
Ça a pas mal gueulé. Et,
avec l'Africa Sport.
Notamment avec l'Africa Sport. Donc c'est une bonne chose. C'est que l'annonce a été faite déjà il y a un petit moment, en fait.
Oui. Alors, Idriss Diallo, quand il avait été élu président de la Fédération, il avait parlé effectivement de modernisation. Bon, après, il a sûrement été beaucoup happé par l'organisation de la CAN parce que c'était quand même un sacré défi. Et là, bien dans un pays qui vient de vivre cette CAN et ô combien réussi, ça, c'est allé sans doute...
La meilleure CAN de l'histoire.
Ben oui.
En toute modestie pour la Côte d'Ivoire.
Bon, en tout cas, c'était une CAN de rêve quand même les Ivoiriens. La VAR, évidemment, a fonctionné et c'était la première fois que la CAN, du premier match jusqu'au dernier, était surveillée par la VAR. Est-ce que pour vous, c'est d'ailleurs un héritage de cette VAR pour le public qui était là et qui a profité d'un bon spectacle?
Mais il faut bénéficier d'une certaine technologie pour pouvoir ensuite... avoir cette disposée de l'assistance vidéo. Et c'est le cas en Côte d'Ivoire. Donc, vous avez la production qu'elle a, vous avez le matériel, vous avez la télévision ivoirienne, la RTI, qui est en capacité de mettre ça en place. Et ils vont le faire. Ce n'est pas le premier pays africain, il y en a déjà quelques-uns.
Il y a l'Afrique du Sud.
Ouais, on a la Tunisie, on a le Maroc, on a l'Égypte, la Mauritanie qui s'y met, qui ça a été annoncé il y a quelques jours. Donc, c'est en train de... Voilà, tout simplement, je dirais...
La Tanzanie, non, aussi?
Pas ma connaissance.
Non.
Pas ma connaissance. Okay. Mais ça pourrait l'être, parce qu'ils ont les moyens de le faire.
Et puis, futur organisateur de la CAN. Carlos, est-ce que, selon vous, quand il y a la présence de la VAR, ça améliore le spectacle et ça améliore un championnat?
Moi, oui. Je pense qu'il t'aura surtout moins de doutes.
C'est pour ça.
Moins de polémiques.
Je pense que, oui, moins de polémiques. Parce que
sur les hors-jeux, sur les séquences surtout de hors-jeux, de pénalty.
Même si je pense que des fois, il se trompe, le VAR, parce qu'il se trompe. Il y a des fois qu'avant, les règles étaient faites d'une façon que maintenant, les arbitres, qu'ils doivent prendre les décisions, ils ne le font pas. Il y a des fois qu'il y a des fautes derrière l'homme. Ça fait 10 ans ou 15 ans quand ils ont fait la loi derrière l'homme expulsé. Il
oui,
était expulsé.
Le dernier défenseur.
Dernier homme.
Oui.
Et maintenant, au dernier. Non,
Non, pardon. Parce que, pardon, pardon.
Daniel, I'm sorry, parce qu'il peut être un avançant.
Oui, oui, bien sûr. Et, mais, dernier joueur.
La question est là, c'est qu'il faut que les arbitres s'appliquent les règles. Elles sont faciles, les règles au football. Mm-hmm. Elles ne sont pas tellement compliquées.
Mais quand même, on s'est aperçu que finalement, avec la FAR, il y a quand même encore des polémiques, Carlos.
Mais il y aura toujours. L'être humain, il est tellement casse-pied. Non, mais, pour ne pas dire autre
ouais,
chose.
C'est-à-dire que là, je pense que à terme, plus ou moins long, la VAR va régler totalement les problèmes binaires. Est-ce que la balle a franchi la ligne? Ça, c'est déjà réglé avec la goal line technologie.
Oui, ça, c'est pas la
Est-ce
VAR.
Que le joueur est hors jeu ou non? Ce sera...
C'est ça le truc.
Ça
Et
va
quand
être
c'est
réglé,
d'un
ça.
Orteil ou d'un lacet.
Mais en revanche, pour moi, on fait fausse route sur la VAR en cas de but. Vous donnez une même situation à 10 équipes arbitrales ou 10 analyses VAR, il y aura... Il y en a 5 qui vont vous dire il y a faute et 5 qui vont vous dire il n'y a pas faute.
Oui, oui, oui.
Donc ça ne règle pas tout. Et je pense qu'il faut réserver la VAR aux situations tranchées où la technologie peut vraiment apporter une réponse claire et nette. Sur le reste,
théoriquement,
comme
c'est
vous
ça,
l'avez
mais...
dit, il y aura toujours des polémiques. et en même temps, c'est ce qui fait le charme du foot.
Ouais. Après, ça ne sera pas mis en place partout.
Et voilà, mais c'est dans ça dans l'autre stades, chose, dans
les,
Carlos. Mais...
Les stades de la CAN sont équipés.
Selon la FIF, la Fédération ivoirienne de football qui organise le championnat, ça sera sur les matchs les plus significatifs.
Ça veut dire ça.
Les matchs, les grosses ben. Affiches du championnat.
Voilà, parce qu'ils n'ont pas encore les moyens de le mettre sur tous les matchs. Sans doute dans tous les
stades.
Le Racing, le Stade. Bon, les principales rencontres. Et puis, quand le matériel, évidemment, est sur place, je pense à un stade, un plus petit stade, le Stade Champroux d'Abidjan. Si oui. le matériel est là et que vous savez, vous jouez deux matchs le samedi, deux matchs le dimanche, on ne va pas le déplacer, ce matériel. Si le van, le hobby-van, il est là avec le matos, on va pas, voilà, ça va rester. Et du coup, les matchs, même les matchs de deuxième division pourraient en bénéficier. Mmh. Ça aussi, c'est une bonne chose. Ça, c'est bien sûr l'initiative du président de la Fédération ivoirienne, puis aussi Salomon Kalou, parce que c'est lui notre ancien éléphant.
Ouais.
C'est lui qui s'occupe de la commission d'arbitrage. Mmh. Et c'est un dossier super chaud pour lui. Régulièrement, je pense que tu as dû être comme moi, tu as lu toutes les déclarations.
Sur l'Africa Sport, j'ai lu.
Ouais, tu as lu. Mais bon, voilà, il est extrêmement...
Sensible.
Ouais. Extrêmement oui. sensible. Bah, c'est ça, oui, c'est son dossier, hein, l'arbitrage, et il ne laisse rien laisser passer. Mm-hmm. Je pense que lui aussi, il a conscience que ça ne va pas tout régler,
non.
mais ça peut qu'améliorer.
Oui,
quoi.
Voilà. Et puis ça montre aussi qu'un effort est fait, que le pays n'est pas fermé à l'évolution.
Ce qui nous intéressait, c'est que c'était après la CAN, finalement. On a l'impression quand même que c'est dans le droit fil de ça, parce qu'il y a une modernisation déjà des infrastructures.
On critique parfois les éléphants blancs et les héritages sans lendemain de la CAN.
C'est pas
là,
le cas.
Au moins, sur ça et sur les stades vont un minimum servir.
Mmh. Ils servent même à des pays voisins parfois.
Ça, c'est quand même positif. C'est-à-dire que c'est un pays de foot. On avait vu dans certains pays comme le Gabon, le stade d'Oyem. Là, il y a des hautes herbes et on peut monter aux arbres dessus aujourd'hui. Hein.
Ah ouais,
c'est terrible. Ouais. Le stade est à l'abandon total. Donc, ça a coûté très cher pour pas grand-chose. Là, au moins... Il y a la pompe a été amorcée,
mais
quelque chose se passe quoi.
C'est un effort.
C'est bien.
C'est pas qu'un effort, c'est un effort ivoirien bien sûr, mais c'est un effort continental. La Tunisie, le Maroc, il y a eu l'Afrique du Sud, le Ghana s'y était mis aussi. Donc toutes ces nations et la Mauritanie, on voit bien que c'est en train d'arriver partout et tant
oui.
mieux. Voilà. Mmh. Après ça a un coût. C'est un coût important. Il faut quand même des sociétés qui puissent ouais, acheminer
qui ont
ça.
Qui ont les reins solides. Quoi.
Et qui ont les reins solides, oui. Ouais.
Carlos, est-ce qu'en Amérique du Sud, c'est banalisé, je dirais, l'usage de la VAR? Dans le championnat argentin, par exemple, il y a la VAR
championnat
sur tous les matchs.
Championnat argentin, oui. Mais je ne sais pas si dans des autres pays... parce que ça devient cher, hein, quand
oui.
même.
Oui.
Je ne sais pas si en Équateur ou...
En Bolivie.
Je sais pas, Venezuela, ou, je ne sais pas, je vous dis la vérité, je ne sais pas si dans tous les pays, le VAR...
C'est Mediapro sur le continent africain, bien sûr, puisqu'ils travaillent sur les compétitions, notamment les Coupes d'Afrique des Nations. C'est eux qui travaillent notamment à l'aménagement
de
tout ça.
Tous les pays l'ont ?
Oui, d'une façon...
Tous ?
Oui.
À peu près. Hein.
Oui, alors après, il y a des aménagements.
Dans les élites, en championnat
d'élite. Oui, après, en D2, par contre, c'est moins le cas.
Oui. Voilà. Et puis, il y a des aménagements aussi. On a vu, là, on en parlait cette semaine, que l'Angleterre, par rapport à la VAR, elle allait moduler
son
utilisation.
Peu, sa jurisprudence. Quoi.
Ouais.
Sa manière de... Son champ d'application peut varier, oui, c'est sûr.
Fouquet a raison.
Parce que selon les, les retours des arbitres, selon les récriminations éventuelles des clubs ou des acteurs du foot...
L'Angleterre a réuni les joueurs, les arbitres et les supporters et ils ont même fait un référendum. Est-ce qu'on doit continuer ou arrêter la VAR ? C'était au mois de juin dernier. Ils ont décidé de continuer et en fait, ils vont moduler, c'est-à-dire sur certains gestes.
Sur les mains, par exemple.
On l'a vu à l'Euro, de toute façon.
Moins strict.
Mais ça nécessite une formation particulière. Donc, ce sera le cas certainement aussi pour les arbitres ivoiriens. Il y en a certains qui sont déjà formés à cette technique, à cette technologie. Mais voilà, il faudra encore plus démocratiser ça pour que plus d'arbitres s'y mettent, arbitres hommes, arbitres femmes.
Franck, certains championnats, vous les avez cités, ont déjà la VAR. Est-ce que vous pensez que ça a amélioré le niveau de ces championnats ? Ou est-ce que la VAR vient après pour confirmer, je dirais, par exemple, celui de l'Afrique du Sud ? On sait que c'est un bon championnat, celui d'Égypte, n'en parlons pas. Enfin, des championnats qui ont des clubs qui
Je ne suis pas persuadé que ça a aidé, peut-être à la marge, quoi, mais pas tant que ça. C'est plus presque une sécurité de se dire « Ah, on peut s'appuyer là-dessus ». Mais pas tant que ça. J'ai pas lu, en tout cas, de débat autour de l'utilisation. Ils étaient satisfaits de l'avoir, mais ça n'a pas créé de débat particulier, quoi. Mmh.
Est-ce que des championnats, alors que ce soit Ligue 1, Ligue 2 ou peu importe le pays, qui n'ont pas la VAR se sentent finalement différents aujourd'hui ? Parce que quand la VAR a été instituée, alors ça a commencé par les grandes compétitions, les Coupes du Monde, l'Euro et tout ça, et on se disait oui, mais au fin fond de l'Afrique, justement, on prenait souvent cet exemple, on ne l'aura pas la VAR, on ne pourra pas la voir. Est-ce qu'il y a un déphasage ? Les acteurs du foot se sentent finalement moins...
C'est forcément compliqué. Si par exemple, pour les pays africains où la VAR n'est pas encore appliquée, quand les équipes de ces pays-là jouent en Ligue des Champions ou en Coupe de la CAF, certaines phases, dans les phases, disons, proches de la finale, elles se retrouvent à être arbitrées avec la VAR. Donc, oui, ça crée un décalage, forcément. Les réflexes peuvent changer. Les joueurs doivent plus faire attention parce qu'ils savent que certains gestes peuvent être davantage observés et réprimés. Donc, oui, je pense que ça change.
C'est comme dans les pays de Centrafrique. Le Mexique, il a un pouvoir économique extraordinaire. Mm-hmm. Et Costa Rica,
et des grands clubs.
Guatemala, Nicaragua.
Ouais, Honduras.
C'est pas les mêmes.
Et là, ça serait la FIFA qui devrait essayer d'aider dans ces cas-là.
Oui,
finalement.
Mais
la FIFA, elle est riche. Elle pourrait donner un petit peu d'argent.
Voilà.
Comme ça, ils volent moins.
L'universalisation aussi
mais Platini,
de la VAR.
Michel Platini, qui était un fervent opposant à la VAR, avait dit « Ce ne sera pas universel et le foot doit rester universel ». Donc
exactement.
Sur ça, il avait raison.
Oui.
Donc effectivement, si on applique la VAR, il faut l'appliquer partout, au maximum en tout cas. Après, c'est sûr que le match du dimanche matin sur le terrain, dans le village de ma grand-mère, là, il n'y aura pas la VAR. Mais
je préfère le VAR.
Oui.
C'est pourquoi ? Parce que je me suis fait voler pas mal de fois.
Ah bon ?
Comme joueur.
Franck, en tout cas, c'est une évolution et révolution.
Absolument. Pour revenir au cas ivoirien, c'est quelque chose de très positif pour le championnat. Naturellement, pour les clubs, effectivement, ça va les obliger aussi à s'adapter. Ce qu'ils voient à la télévision ailleurs, eh bien, ils vont le vivre à leur tour. Faut pas penser, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure.
Que ça serve de gadget et qu'on oublie tous les efforts nécessaires de structuration dans la formation, la détection.
Exactement. Sans doute faut-il bien maintenant former
des pelouses,
former les arbitres à cet outil.
Le championnat, et d'ailleurs c'est un des débats en revanche en Côte d'Ivoire actuellement, c'est que c'est un produit ce championnat. Et il faut le vendre, il faut le promouvoir. Et ça, il y a encore plein de choses à faire. La VAR, c'est bien, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres dossiers. Il y a aussi le football féminin, la structuration de tous ces clubs en société, etc., etc.
Eh bien voilà, messieurs, c'est déjà la fin de ce Radio Foot International. Alors demain, chers auditeurs, on reprend le Café des Sports. Ça sera le premier de la saison, exactement. Alors n'oubliez pas, là, on fait appel à vous. Votre exercice, c'est de nous envoyer des cartons vidéo. Vous en avez pris l'habitude. Et puis alors, s'il y a des supportrices qui en envoient, alors là, vous êtes sûr d'être sélectionné. Oui. David Finzali, il aime bien quand il y a des supportrices qui nous envoient leurs cartons. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Carlos.
Merci à tous. tous et à
bientôt, Carlos.
Quelques mois.
Ouais.
Quelques mois.
Bon. À bientôt.
Merci. Bah,
Carlos, tu vas nous manquer.
On vous appellera par
vous
téléphone.
Aussi, vous allez me manquer.
Vous nous manquez toujours, Carlos. Merci. On vous attend au printemps prochain.
Mais bien sûr.
Hein, d'accord.
Mais le printemps, hein.
Ouais. On ira vous voir peut-être à Buenos Aires.
Bon.
Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour ce Café des Sports.